Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur Paul à Athènes, dans Actes chapitre 17 et le verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Or, alors, ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes, il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné et dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'aréopagite, une femme nommée Tamaris et d'autres avec eux. Amen. Nous retrouvons Paul ici dans son deuxième voyage missionnaire, lorsqu'il a été conduit et appelé par le Saint-Esprit à se rendre en Macédoine. Et la semaine dernière, on a parlé de ce qui s'est passé dans la ville de Philippe, première ville de Macédoine dans laquelle ils sont arrivés. Et il y a eu trois événements glorieux qui se sont passés, puisque une femme qui s'appelait Lydie, marchande de pourpre, a été touchée par le message de la grâce de Dieu. Elle a donné son cœur au Seigneur et s'est fait baptiser ainsi que sa famille. Une femme habitée d'un esprit de Pythonis, c'est-à-dire un esprit de révélation, a été délivrée, libérée de cette influence démoniaque. Elle s'est donc donnée au Seigneur. Et puis enfin, un geôlier qui était sur le point de se suicider a été sauvé par la grâce de Dieu, et lui et sa famille se sont fait baptiser. Et nous trouvons là déjà les premières familles qui ont constitué la naissance de l'Église de Philippe. Mais Paul ne s'est pas arrêté dans cette ville très longtemps. Comme vous le savez, c'est un apôtre, et le but d'un apôtre, c'est de fonder des églises. Et donc, il a poursuivi sa route avec ses compagnons. Il s'est rendu dans la ville de Thessalonique, un petit peu plus loin, donc on est toujours dans la Macédoine. à Bérée, et à chaque fois qu'il allait dans ces villes, il allait dans les synagogues pour parler de Jésus, pour dire que le Messie est venu, que Jésus est le Messie. Donc les choses se passaient plus ou moins bien. Par exemple, à Thessalonique, on sait qu'il a été rejeté. On n'a pas accepté ce message de la foi. Mais par contre, la Bible dit qu'à Bérée, il y a une particularité, c'est que les Juifs de Bérée ont fait un meilleur accueil à l'Évangile parce qu'ils avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Et la Bible dit qu'ils examinaient chaque jour dans les Écritures si ce qu'on leur enseignait était exact. Et ça, je pense que c'est une bonne attitude. Et c'est une bonne chose que nous devons faire parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qui a une certaine méconnaissance de la parole de Dieu. Et pourtant, sur Internet et dans tous les médias, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont dites sur Dieu, sur la Bible, sur Jésus. Mais si vous n'avez pas une bonne connaissance de la parole de Dieu, mais je dirais pas simplement de ce que les gens disent sur la parole de Dieu, mais de la parole de Dieu, eh bien, vous allez être plus ou moins entraîné dans différents courants de pensée, différentes doctrines. Et on a besoin aujourd'hui de bien connaître la parole de Dieu, mais déjà lire la Bible, déjà la connaître et connaître le message de la parole de Dieu, c'est vraiment important. Vous voyez, ces Juifs avaient pris à cœur l'étude de la parole de Dieu. Et on se rend compte que ça manque aujourd'hui, qu'il y a des chrétiens fragiles parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Je vous donne une image, l'étude biblique, c'est comme le squelette à l'intérieur du corps. Si vous n'avez pas un squelette qui est vraiment solide, votre corps, il va s'effondrer. Imaginez même que vous n'avez pas de squelette en vous-même. Vous allez être flasque. Vous n'allez même pas pouvoir bouger de cette salle. Vous allez ramper. Ça serait catastrophique si on n'avait pas de squelette. Mais un chrétien qui n'a pas de squelette spirituel, c'est-à-dire qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, il est flasque. Il est mou et il ne peut pas se déplacer autrement qu'en rampant. Il n'a pas le squelette. Donc le squelette, c'est vraiment la parole de Dieu qui va rentrer dans votre cœur, qui va vous fortifier et qui va vous donner une solidité spirituelle. Alors c'est vrai que ça ne se voit pas, hein, le squelette, il est à l'intérieur, mais s'il n'était pas là, on serait tous embarrassés. Mais comme nous avons tous un squelette, ben, on peut se déplacer facilement. Voilà. Et bien, c'est pareil pour l'étude de la parole, c'est à l'intérieur du cœur que va se développer cette solidité spirituelle. Donc Paul parcourt ces villes, Thessalonique, Bérée, et il arrive jusqu'à Athènes, donc on est toujours au chapitre 17, la ville d'Athènes que nous connaissons bien, puisque c'est une ville célèbre dans la Grèce, avec tous ces dieux. Il y avait quand même des tas d'hôtels bâtis avec beaucoup de dieux, des idoles, et puis aussi avec ces philosophes. On a tous entendu parler des philosophes grecs et de leurs pensées, parce qu'on l'étudie encore aujourd'hui. Donc, quand il arrive dans cette ville, Paul est surpris par la multitude des idoles. Et là, il y a deux possibilités de réaction. Soit on se dit, oulala, dans une ville pareille, c'est même pas la peine d'annoncer l'évangile, parce que personne va vouloir écouter. Première attitude, c'est l'attitude négative. Et de se dire, ça ne sert à rien, il y a déjà plein de dieux, ce n'est pas la peine, je vais plus loin. Ou alors l'attitude de se dire, bon, dans cette ville, ils ne connaissent pas encore l'évangile, c'est l'occasion de leur annoncer l'évangile. Et c'est l'attitude de Paul. Et je pense que ça doit être notre attitude aussi, parce qu'on est quand même dans une société où il y a aussi beaucoup d'idoles, beaucoup d'idolâtrie spirituelle. Et bien c'est l'occasion d'annoncer Jésus, l'évangile, et de faire connaître combien il est merveilleux, combien il est bon et combien il est puissant et qu'il change les vies. Parce que les gens ne connaissent pas Jésus. Comme à Athènes, ils ne connaissaient pas la bonne nouvelle. Voilà la bonne occasion. Alors le premier point, c'est donc le constat au verset 16, que cette ville était remplie d'idoles. Une ville pleine d'idoles. On sait qu'à l'époque, les idoles, c'était quoi? C'était des statues qui représentaient des dieux. Alors, c'était des faux dieux, c'était le dieu Zeus, c'était le dieu, il y avait Apollon, il y avait Hermès, il y avait Athéna, enfin, il y avait 12 dieux parmi les Grecs et même davantage. Mais en tout cas, à Athènes, on en célébrait 12 particulièrement qui étaient honorés. et les innombrables dieux étaient des idoles. Alors d'où viennent ces idoles? Eh bien, les idoles viennent déjà du péché du cœur humain qui fait que l'homme a besoin de se créer des dieux, de se faire des dieux. Ces idoles sont donc de l'imagination des hommes et ils sont le produit d'une volonté de chercher au-delà de l'être humain des solutions. Et puis, ça vient aussi du besoin religieux, parce qu'au fond de chaque être humain, il y a le besoin d'aller au-delà de cette terre, parce qu'en fait, Dieu a mis dans chaque être humain la pensée de l'éternité. Et c'est pourquoi il existe des milliers de religions, parce que dans chaque cœur humain, il y a ce désir, et qu'est-ce qui se passe après la mort? À quoi sert la vie? Et donc, tout ça, ça crée des nouvelles religions, des religions que vous connaissez, qui existent encore aujourd'hui. Donc, c'était une ville pleine d'idoles. Des idoles, vous allez me dire, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'idoles. Si, il y a encore des idoles. Alors, ce ne sont plus forcément des statues, comme autrefois, à l'époque des Grecs. Elles ne sont pas sur des autels au centre-ville. Mais les idoles, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui, dans votre cœur, prend la place qui revient à Dieu. Eh bien, la Bible appelle ça des idoles. Alors, ce sont des idoles invisibles, mais ça prend la place de Dieu. Dans votre cœur, en fait, il y a un trône, et ce trône, il doit y avoir Dieu dessus, Dieu qui règne sur votre vie. Si sur votre vie, ce n'est pas Dieu en premier, si vous le mettez à la deuxième ou troisième place, c'est déjà qu'il y a une idole dans votre cœur qui a pris la place de Dieu. Qu'est-ce que c'est, ces idoles? Pour beaucoup de gens, leur idole, c'est une idole portative, c'est leur téléphone portable. Ils s'endorment avec, ils se lèvent avec. Quand ils mangent, ils ont leur idole à côté, ils regardent toujours leur idole. Ils sont connectés à leur idole. Ça a pris. Ils passent plus de temps dans leur téléphone que dans la parole de Dieu. À un moment donné, ça devient une idole. Ça prend trop de place. Attention. Ça peut être le travail, c'est-à-dire le travail au travail. À la maison, on ramène du travail. On fait du travail le week-end. Et le travail devient une idole. Ça prend la place de Dieu. Il n'y a plus de temps pour Dieu. Ça peut être la réfection d'une maison. On y passe tous nos week-ends, on y passe toutes nos soirées, tout notre temps libre. Ça devient une idole. Ça peut être des loisirs. On n'a plus le temps pour Dieu parce qu'on s'occupe des loisirs. Les loisirs prennent toute la place. Ça prend la première place. Ça devient une idole. Ça peut être l'argent. On ne vit que pour l'argent. On cherche à gagner plus d'argent. Ça devient une idole. Jésus en a parlé, par exemple, dans Matthieu, chapitre 6, verset 24. « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et ce nom de Mammon, c'est un nom propre, mais qui est le nom d'une idole. Et cette idole, ça s'appelle en français, l'argent, le dieu argent. Le dieu d'argent, c'est une idole. Et certains courent après ce dieu-là pour toujours gagner plus. En fait, leur vie tourne autour de l'argent. Et en fait, la première place dans leur cœur, c'est l'argent, c'est Mammon, cette idole qui doit être déracinée de tous les cœurs. Toutes les idoles, en fait, sont des faux dieux. Et toutes les idoles doivent disparaître de notre vie. C'est-à-dire que dans notre vie, notre cœur doit être pleinement la résidence de Dieu, mais Dieu ne partage pas sa gloire. S'il y a encore des idoles dans votre cœur, vous ne pourrez pas faire la volonté de Dieu. Vous serez freiné, vous serez bloqué. Il y a encore des idoles. Vous allez dire, oui, mais ça, ce n'est pas pour les chrétiens. On se rend compte qu'il y a des croyants. Déjà dans l'Ancien Testament, si vous regardez Ézéchiel 14, verset 6, il y a des croyants qui adoraient Dieu, le Dieu que nous connaissons, mais en même temps qu'il y avait des idoles dans leur vie. Ils conservaient des idoles et ils leur vouaient un certain culte. Et c'est pourquoi Dieu les reprend dans Ézéchiel 14, 6. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ce sont donc les croyants, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations. » Détournez-vous des idoles. Pourquoi cette parole? Parce que le peuple était plus attaché à ses idoles qu'à Dieu. Et à un moment donné, ils étaient en train de s'égarer, d'aller sur un chemin de perdition, et c'était la mort au bout du compte. Les idoles, donc, sont dangereuses, et c'est pourquoi Dieu dit, détournez-vous, débarrassez-vous-en, Parce que c'est vrai que les faux dieux, en fait, ils n'existent pas. Il n'y a pas d'autre dieu que Dieu, il n'y a qu'un seul dieu, on est d'accord. Toutes les faux dieux, on a parlé de Zeus, on a parlé d'Apollon, tous ces dieux ne sont que de l'imaginaire. Mais il faut comprendre, et c'est Paul qui le dit, que spirituellement, derrière ces faux dieux, en fait, il y a des mauvais esprits qui sont rattachés à ces idoles. Et ces idoles, en fait, même si elles ne sont rien, elles peuvent agir dans votre vie et vous détourner des choses de Dieu. Alors Paul l'explique très bien dans 1 Corinthiens chapitre 10 et au verset 19. Bon, à l'époque, effectivement, on sacrifiait des idoles, on sacrifiait plutôt de la viande aux idoles. Et donc, à l'époque, les gens sacrifiaient des viandes aux idoles. Alors, à l'époque, donc, on sacrifiait des viandes à des idoles. Bon, je dis des idoles, donc on va dire des statues. C'était la méthode d'honorer les dieux à l'époque. Eh bien, Paul explique très bien que derrière ces statues, il n'y a rien. Alors, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 19, « Que disent donc que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ? Ou qu'une idole est quelque chose ?» On sait très bien que c'est que de la pierre, nullement. Je dis que ceux qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Voilà le problème. C'est que derrière ces idoles de pierre, en fait, ces faux dieux qui n'existent pas, il y a quand même des mauvais esprits qui sont là. Et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Qu'est-ce que Paul explique ici ? Il explique très bien que les idoles en elles-mêmes sont mortes, elles sont muettes, elles ne peuvent rien faire, mais que derrière ces idoles et les gens qui s'y attachent, en fait, il y a des puissances impures. Et ces puissances impures vont manipuler les uns, manipuler les autres, agir pour l'un, agir pour l'autre. Et voilà pourquoi Paul dit, mais fuyez l'idolâtrie. Ne rentrez pas en communion avec ces idoles, parce que derrière ces idoles, il y a des mauvaises puissances qui vont vous détruire. Ça s'appelle le compromis. Le compromis. Il y a des années, c'était à l'époque de la guerre de sécession. Les États du Nord aux États-Unis donc faisaient la guerre aux États du Sud. Et ils avaient chacun un uniforme différent pour se reconnaître dans les batailles. Il y avait un agriculteur qui était à la frontière entre le Nord et le Sud. Et il ne savait pas comment la guerre allait tourner. Alors il a eu l'idée astucieuse de faire un mélange. Il a mis la tunique des nordistes et il a mis le pantalon des sudistes. Ainsi, il a pensé qu'il serait épargné de la guerre, que les deux verraient un allié. Or, quand les deux, il s'est retrouvé au centre du conflit, et quand les deux l'ont vu, en fait, les deux ont tiré sur lui. Et en fait, au lieu d'être épargné, il a été surchargé. Voilà le problème du compromis. Vous faites un compromis en prenant un peu de une partie de Dieu, une partie des idoles. Vous pensez avoir l'avantage des deux, mais en réalité, vous avez le feu qui va tomber sur vous pour vous montrer que ce n'est pas possible. Vous êtes dans un compromis intenable qui va vous pénaliser, qui va vous faire souffrir. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu dit, il faut entièrement appartenir à Dieu. Et la réaction de Paul, j'aime bien, c'est au verset 16, j'aime bien sa réaction, parce que pour moi, ça doit être la réaction qu'on doit avoir aujourd'hui. Le texte dit, comme Paul attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Notre esprit doit s'irriter à la vue des idoles. C'est-à-dire que ça démontre quoi ? Ça démontre qu'il est en bonne santé spirituelle. Parce que si la présence des idoles ou l'idolâtrie, le péché, ne vous fait pas réagir, c'est que vous êtes endormi spirituellement. Il n'y a plus de réaction, on laisse faire, on accepte, ce n'est pas normal. Or, Paul réagit. Voyez, si par exemple, on vous critique, on vous critique une sœur de votre église ou on juge un frère, si vous n'avez pas de réaction et que vous acceptez même d'entrer dans ces critiques, dans ces jugements, c'est que vous êtes endormi spirituellement. Si vous n'avez pas la haine du péché, si vous acceptez que le péché rentre dans votre vie, vous laissez faire, eh bien, vous êtes endormi spirituellement. On voit que Paul, lui, il est tellement en communion avec Dieu que quand il y a des idoles, il sent son esprit s'irriter. C'est une sainte colère contre le péché. Si on n'a pas cette sainte colère, c'est qu'on a laissé un accès au diable. Éphésiens 4, 26, « Ne donnez pas accès au diable. » Ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire que si on est dans le compromis, on va donner un accès. Et rappelez-vous ce qui s'est passé avec Jésus quand il est rentré dans le temple et qu'il a vu cet argent qui était véhiculé par rapport aux sacrifices, les gens qui faisaient du profit, les gens qui prenaient la maison de l'Éternel pour une maison de commerce. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur du Seigneur? Il s'est irrité. Il a senti dans son esprit comme une sainte colère et il a fait un fouet et il a renversé les tables des changeurs et il a chassé tous ceux qui faisaient du commerce et il a dit « Ma maison ne sera pas appelée une maison de commerce mais une maison de prière pour toutes les nations. » Donc cette colère-là, elle est normale. Et si vous ne l'avez pas, si on laisse tout faire parce qu'on dit « Maintenant tout le monde le fait », c'est que quelque part, on a laissé le péché régnait dans notre cœur et on a des idoles à déraciner. Deuxième élément, c'est au verset 18, ce sont les philosophes. Quelques philosophes qui discutaient, les épicuriens, les stoïciens, ils parlaient avec Paul et ils voulaient en savoir plus sur le message de l'Évangile. La ville d'Athènes était célèbre pour ses philosophes. Il y avait beaucoup de philosophes grecs. Il faut savoir que la philosophie dans l'Antiquité, c'était le sommet de la réflexion. C'était l'art de la discussion, c'était... En fait, la philosophie, c'est une tentative humaine de donner un sens à sa vie et de chercher ce qu'il y a après la mort. C'est une quête vaine parce que si vous n'avez pas Dieu, la vie n'a aucun sens. À quoi ça sert la vie? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? S'il n'y a pas de Dieu, c'est vrai qu'il n'y a pas de sens à la vie. Et les deux courants donc, qui sont mentionnés, que Paul... confrontent, ce sont les épicuriens et les stoïciens. Alors les épicuriens, ce sont ceux qui aiment profiter de la vie, qui disent par exemple, il faut chercher le bonheur sur terre, il faut profiter de la vie aujourd'hui parce qu'on ne sait pas demain ce qu'il y aura, et voilà, mangeons, buvons, réjouissons-nous aujourd'hui. En fait, c'est chercher les plaisirs de la vie. Et ils ont leur objectif, c'est de trouver le bonheur. Les stoïciens, eux, c'est de dire que la raison est supérieure aux sentiments. Et ils vont donc canaliser leurs sentiments et s'interdire certaines choses, donc une vie de discipline, une vie austère, pour montrer que c'est la pensée qui règne sur leur vie. Donc toute cette sagesse humaine réunie, bien sûr ce sont des efforts colossaux. Si on regarde toutes les livres qui ont été écrits, toute cette sagesse, cette pensée en fait, ça n'est que du vent, ce n'est que des réflexions humaines, mais qui n'ont pas d'aboutissement spirituel. Elles laissent l'homme vide. Et un chrétien n'est pas contre la recherche, contre la science. Paul lui-même travaillait avec Luc, qui était médecin. Mais il y a plus que la science, il y a la révélation. Par exemple, dans Luc 10, 21, on voit que ça va au-delà de l'intelligence, ça va jusqu'à la révélation. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Et notez bien le verbe « révéler ». Il y a un moment donné où nous avons besoin d'une révélation. Ce n'est pas la science, ce n'est pas l'intelligence, c'est la révélation. Et la révélation, c'est pour tous. Tu l'as révélée aux enfants. Ça veut dire que pour connaître Dieu, il nous faut avoir un cœur d'enfant, simple, dans la foi, humble, qui accepte un petit peu comme un enfant fait confiance à son père. Si par exemple c'est l'anniversaire de un père a l'anniversaire de son enfant, il lui dit pour ton anniversaire, je vais t'acheter le vélo qu'on a vu au magasin. L'enfant, il va croire ce que son père dit. Il ne sait pas comment le père va le payer, il ne sait pas comment ça va se passer, mais il croit tout simplement qu'il va avoir le cadeau qui lui a été promis. C'est une foi, on va dire, un peu simple, mais c'est ce type de foi simple que Dieu nous demande, de le considérer comme un Père qui est tout-puissant, qui est aimant, de venir à lui avec une foi simple et de croire ce qu'il nous dit, de croire. On ne sait pas comment il va le faire, quand il va le faire, on ne comprend pas ces choses, mais simplement de lui faire confiance. Le troisième point, c'était une ville surinformée. C'est au verset 21. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Les Athéniens, déjà à l'époque, passaient leur temps à écouter des nouvelles, à partager des nouvelles. Remarquez qu'aujourd'hui, on est dans la même pensée. On a du temps, mais on ne sait pas toujours gérer le temps. On gaspille le temps par des choses futiles, des choses légères. Donc ces gens gâchaient leur temps. Psaume 90, verset 12, la Bible dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours ». Alors on a des jours, parfois il faut tout caser, mais il faut qu'on gère bien le temps qui nous est donné, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Il y a aussi aujourd'hui des nouvelles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et ça ne finit jamais. Certains même, ils s'endorment en regardant les infos, et la première chose qu'ils font au réveil, c'est regarder les infos. Ils vivent constamment dans les nouvelles du jour. Mais les mauvaises nouvelles, en fait, elles ne finissent jamais, parce que si vous regardez le monde entier, il y a toujours des mauvaises nouvelles quelque part. Et ça va vous poursuivre le jour et la nuit. C'est pourquoi beaucoup de gens sont agités dans leur sommeil. Ils n'arrivent pas à dormir, ils sont tourmentés, ils font des cauchemars. Mais ils se sont nourris de toutes sortes de nouvelles et ça les accompagne dans leur sommeil. Or, nous, chrétiens, qu'est-ce que nous devrions faire? Eh bien, les dernières pensées que nous avons le soir, ça devrait être de les tourner vers Dieu et de penser au Seigneur. Comme ça, ça nous accompagne pendant la nuit. Et les premières pensées au réveil, c'est de se tourner vers Dieu et de penser au Seigneur. Si nous respectons vraiment ces principes, eh bien, ça sera la paix. Ça sera la paix de Dieu. Et non pas les angoisses dans les cœurs. Regardez le psaume 4, verset 9. Ce sont des promesses dans la parole. « Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Voilà une pensée qu'on peut avoir avant de s'endormir. « Je me couche et je m'endors en paix. » Parce que je pense à Dieu. Parce que Dieu est au centre de ma vie. Et je ne m'entretiens pas l'esprit de tous les problème de la terre, toutes les nouvelles angoissantes du jour, je les mets de côté, mais mes dernières pensées, elles vont vers le Seigneur, en adoration, en reconnaissance. J'aime bien la version Semeur. Elle dit ceci, « Dans la paix, je me couche et je m'endors aussitôt. Grâce à toi seul, Seigneur, je demeure en sécurité. Je m'endors aussitôt. » Voilà quelqu'un qui a trouvé la paix dans la présence de Dieu. La paix n'a pas de prix. La paix, il y a quand même quelque chose à faire pour la conserver, c'est de tourner nos pensées vers le Seigneur le soir, le matin, et cela, c'est notre part. Donc veillons à ne pas perdre notre temps dans des futilités. Je pense qu'on a tous le même nombre d'heures, mais on ne le gère pas tous de la même manière. Certains vont savoir mettre un temps avec le Seigneur tous les jours. Ils vont le faire parce qu'ils ont compris l'importance et la détermination. Ils n'ont pas plus d'heures que les autres, mais ils ont compris que c'est important. Et ils arrivent à le caser, malgré qu'ils sont très occupés. Et puis d'autres, ils disent, ils n'ont jamais le temps. Parce qu'ils sont pris par des futilités, qu'ils n'arrivent pas à comprendre, qu'elles sont secondaires. Et donc, ils les mettent toujours, il faut le faire ci, il faut faire ça, mais ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a un temps qui est réservé pour Dieu, qui est incontournable et qui doit être dans notre agenda. C'est un rendez-vous avec Dieu. Je prends l'exemple dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 11. On voit ici Paul qui reprend des chrétiens parce qu'ils sont dans la futilité. 2 Thessaloniciens 3, 11. « Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, ne travaillant pas, mais qui s'occupent de futilité. » Ils s'occupent de futilité. Ce sont des gens qui ne savent pas gérer leur temps. Et immanquablement, ils n'ont jamais de temps pour Dieu. Jamais le temps de prier, jamais le temps de lire la parole de Dieu, mais ils ont le temps pour les futilités. Je dis, c'est une mauvaise gestion du temps que nous devons rectifier. Et je termine avec le message de Paul, à partir du verset 22, puisqu'il est convié sur l'Aréopage, et là on lui demande, mais quelle est cette doctrine que tu enseignes? Et là, il va annoncer l'Évangile. D'abord, il leur fait remarquer que les Athéniens sont extrêmement religieux. Effectivement, on a dit qu'il y avait beaucoup de dieux, des autels, alors à des dieux. Alors chaque dieu avait sa fonction. Il y avait le dieu de la guerre, le dieu du mariage. Il y avait même le dieu du vin, de l'ivresse. Il y avait toutes sortes de dieux pour des festivités, la poésie, etc. Et en fait, à chaque activité, ben, ils avaient leur dieu. Alors, ils étaient sûrs de manquer aucun dieu. Et ils étaient tellement sûrs que... Enfin, ils voulaient surtout manquer aucun dieu qu'ils avaient fait un autel avec marqué dessus « À un dieu inconnu ». Au cas où il y a un dieu qu'on ne connaît pas, au moins celui-là, on l'honore aussi. Et Paul a saisi cette bizarrerie. Un dieu inconnu, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il est dit, voilà, au moins celui que vous ne connaissez pas, c'est celui que moi je viens vous annoncer. C'est le dieu qui a créé les cieux et la terre. Et là, il va commencer à leur annoncer l'évangile. Alors, vous pouvez connaître beaucoup de religions, comme les Athéniens. Ils connaissaient beaucoup, beaucoup de dieux. Il y en a qui ont essayé le bouddhisme, l'islam, le christianisme, le judaïsme. On sait qu'il y a plus de 10 000 religions. Mais j'aimerais vous dire ce matin, ce n'est pas une religion qui va vous sauver, c'est une personne, et cette personne, c'est Jésus. Jésus. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Voilà comment dit l'Évangile. Elle ne dit pas c'est une religion qui sauve, elle dit c'est une personne. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous, pour tous. Paul ne dit pas ici, Paul ne dit pas ici que Dieu a envoyé une religion entre Dieu et les hommes, mais Dieu a envoyé une personne. Et cette personne, c'est Jésus. C'est pourquoi quiconque vient à Jésus, c'est l'intermédiaire. Il rentre en relation avec le Dieu Tout-Puissant. Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Alors Paul enseigne ces choses. D'où vient le monde? D'où vient l'univers? C'est encore des questions que même les scientifiques sur lesquels ils réfléchissent, et selon, alors, quand est-ce que l'univers a commencé à exister, pourquoi il existe, comment est-ce qu'il est venu à l'existence, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui sont faites encore aujourd'hui, et vous avez entendu parler des théories, 14,8 milliards d'années, l'univers était concentré dans un petit espace plus petit qu'une molécule, et qui s'est dilaté, qui a abouti à cet univers que nous voyons aujourd'hui. C'est l'explication scientifique, mais qui n'arrive pas à expliquer mais d'où vient la matière, d'où vient l'énergie, d'où vient toutes ces choses qui existent. Ben, c'est par hasard, c'est par hasard. La science, c'est le mystère. Par hasard, tout est venu au jour. Par hasard, tout est venu à l'existence. Même la vie. La vie est venue par hasard. Tout est mystérieux. Tout est le hasard. Même la science est obligé d'expliquer l'inexplicable par le hasard. Mais si vous regardez comment la science explique, vous comprenez que c'est Dieu qui est à l'origine de tout et que le hasard, en fait, c'est parce qu'on n'a pas d'explication. Mais si on regarde comment les choses sont écrites dans la parole de Dieu, c'est très simple. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'y a pas de hasard. Donc c'est Dieu. Tout ce que la science appelle le hasard, en fait, en réalité, c'est Dieu. Dieu qui est partout, Dieu qui crée le monde, l'univers, Dieu qui crée la vie, Dieu qui crée la nature, Dieu qui crée toutes choses. Le hasard ne peut pas créer des choses aussi perfectionnées. La Bible, comme Paul l'enseigne, nous parle d'un Dieu créateur qui a tout fait à partir de rien. Dieu n'a pas besoin des temples. Paul leur explique, il habite dans le ciel. Alors, la demeure de Dieu, vous ne la verrez pas dans les télescopes. Elle est invisible à nos yeux parce qu'elle n'est pas de cette création. Quand nous parlons du paradis, le paradis, vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des télescopes qui voient très loin dans le ciel, même des galaxies éloignées. Mais dans cet univers, ils ne verront pas le paradis, parce que le paradis est d'une autre création. Il y a la création physique, ce que la science observe, mais il y a la création spirituelle, ça c'est le domaine de Dieu. Et elle est au-delà de cette création physique. Et c'est là où Dieu a sa demeure. Alors, il annonce surtout le point clé de ce message, c'est quand Paul annonce que Dieu annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Et là, on arrive à la décision et au choix. Oui, Dieu existe, il a envoyé Jésus qui est mort à la croix pour effacer nos péchés, Mais il y a encore une chose que Dieu ne va pas faire à notre place, se repentir et croire. Et là, il annonce la décision. Il n'y a pas d'autre moyen de s'approcher de Dieu. Si vous ne reconnaissez pas vos péchés, si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas rentrer en relation avec Dieu. Et c'est ce qu'il explique à ses Athéniens. Encore aujourd'hui, je dirais qu'on est dans le même contexte, c'est le même message, et nous annonçons encore aujourd'hui à tout homme, en tout lieu, à Toulouse, dans tous les pays du monde, c'est le même moyen, c'est la repentance. Demandez pardon pour vos péchés, croyez à la bonne nouvelle, et vous serez sauvés et pardonnés de vos péchés. Le message est simple, le message est toujours le même, et nous disons que seul le sang de Jésus est efficace pour apporter la paix et le pardon des péchés. Alors, en conclusion, on voit que quelques-uns ont cru. Donc, Paul a eu raison de parler à ces intellectuels. Vous voyez, ces gens qui étaient des philosophes, c'est très difficile parce qu'eux, ils sont dans leur réflexion intellectuelle, ils ne veulent pas ouvrir leur cœur. Mais quand même, quelques-uns crurent. Donc, ce n'est jamais inutile de donner votre témoignage. Même à des gens, vous pensez, ben, ceux-là, ils ne se convertiront jamais. Mais vous ne savez pas ce que Dieu va faire avec votre témoignage. Parce que ce n'est pas vous qui allez convertir la personne, c'est l'Esprit qui va la convaincre de péché, de justice et de jugement. Vous, vous allez juste témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie, de ce que vous croyez que Dieu est le Créateur des cieux et de la terre, comme Paul l'explique, de ce qu'il a envoyé Jésus pour nous sauver, de ce qu'il n'y a que la repentance et la foi qui permettent cela. C'est le simple message de l'Évangile, partagé à des personnes. Alors ici, ce sont des grands intellectuels, des savants. Mais en même temps, ces savants, ils ont besoin de Dieu, comme les autres. Et quelques-uns se sont attachés à l'Évangile. Et puis après, Dieu a continué son œuvre. Donc ne vous découragez jamais de témoigner, même si vous ne voyez pas le fruit, parce que Paul, il en a vu quelques-uns. Mais après, ces quelques-uns, ils vont continuer le travail. Ils vont en parler à leurs collègues, ils vont témoigner à d'autres, et puis ça peut faire boule de neige. Donc, continuons à témoigner, même s'il n'y en a qu'une personne qui est touchée, ben gloire à Dieu. Et puis après, c'est une décision personnelle. Ce n'est pas nous qui convertissons les gens, mais nous, nous témoignons. Par contre, le Seigneur va toucher leur cœur et permettre qu'ils changent de vie. On va prier un instant. Merci encore pour ta parole, parce qu'elle est pleine de bons conseils pour notre vie, pour notre âme. Et nous voyons combien Paul a pu amener l'Évangile dans cette ville remplie d'idoles. Et nous croyons encore aujourd'hui, Seigneur, que tu veux toucher des cœurs, dans nos villes où il y a beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de péchés, beaucoup d'éloignement de Dieu, eh bien c'est l'occasion d'annoncer Jésus qui est venu pour nous pardonner de nos péchés, pour nous donner une nouvelle vie et pour nous donner un nouveau départ, un sens à notre existence. Et je te prie, Seigneur, que nous puissions vraiment être des témoins comme Paul a pu témoigner sur cette place, à l'occasion dans le travail, dans la famille, quand nous sommes en discussion avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Eh bien, donne-nous les paroles et les mots qu'il faut, Seigneur, pour parler de ta part avec sagesse, avec ton onction, avec, Seigneur, ce désir de toucher les cœurs. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.